des grands enjeux environnementaux de ce siècle, c'est sans nul doute la transition écologique couplée au numérique. C'est pourquoi la transition écologique et numérique apparaît comme un sujet crucial dans le contexte actuel où les défis environnementaux et technologiques interagissent de manière complexe. En ce siècle où l'utilisation massive du pétrole, du gaz naturel, du charbon vient répondre aux besoins énergétiques afin de contribuer à la croissance économique en Afrique et dans le monde. Ces énergies fossiles qui ont des conséquences environnementales significatives, notamment les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, de la pollution, de l'air et de l'eau, ainsi que de la dégradation des écosystèmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de se tourner vers des alternatives vertes, durables et renouvelables que sont l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie issue de la biomasse, l'énergie hydraulique ou hydroélectrique, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice et houlomotrice. Des sources d'énergie considérées comme celles destinées à remplacer progressivement les énergies fossiles. Dans ces conditions, comment concilier le développement des énergies propres ou renouvelables et les énergies fossiles par le biais du numérique? Peut-on définitivement se passer des énergies fossiles? À travers cette interview, nous allons, en compagnie d'un expert international en industrie pétrolière et énergie, aborder quelques points qui explorent différents aspects de cette transition, ses enjeux et ses perspectives. Bienvenue à tous.
Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Monsieur Serge Parfait-Dioman, bonjour.
Bonjour.
Comment définit-on la transition écologique? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la transition écologique?
La transition écologique est une réponse fonctionnelle pour régler le déséquilibre écologique dû au comportement qui est un comportement irritant pour l'environnement. Donc, en un mot, la transition écologique est un ensemble de démarches mises en œuvre pour aller vers le respect de l'environnement. Et lorsqu'on associe ce thème au numérique, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'il s'agit de deux domaines différents. Or, le numérique vient en soutien à l'écologie.
Dites-nous comment le numérique vient en soutien à l'écologie.
Dans plusieurs domaines et plusieurs aspects, ben je vais donner juste un exemple, tout ça vous allez comprendre. Pour faire des journaux, il faut du papier. Le papier, c'est les arbres, il faut couper des arbres. Il faut faire en griffe une sorte de déforestation. Alors qu'aujourd'hui, avec la presse en ligne, nous sommes dans le domaine du numérique, les supports n'ont plus besoin de papier, n'ont plus besoin qu'on aille couper quoi que ce soit.
Et donc c'est un moyen de réduction de la déforestation, un moyen de lutte contre la déforestation, vous voulez dire?
En luttant contre la déforestation, c'est-à-dire que vous préservez la biodiversité. Et la préservation de la biodiversité fait partie des éléments de la démarche écologique. Un deuxième exemple que les gens comprennent, par exemple, si vous voulez, vous êtes dans une entreprise et que vous avez une réunion, par exemple, dans une autre localité. Par exemple, votre entreprise a deux localités et que de vous déplacer. Aujourd'hui, avec le numérique, grâce à la visioconférence, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer. Le fait de ne pas vous déplacer fait que vous n'émettez pas de gaz à effet de serre parce que vous pouvez faire des conférences en visio. Voilà autant d'éléments qui apportent la preuve qu'avec le numérique, on peut venir en soutien aux démarches écologiques.
Un troisième exemple?
Bon, un troisième exemple, il y en a plusieurs. Par exemple, la musique. Avant, pour la musique, vous avez besoin de les graver sur des CD ou les graver sur des cassettes au chrome. Le chrome est une matière minérale qui coûte très cher. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin. Vous écoutez de la musique en ligne. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de cassettes, vous n'avez plus besoin de CD. Or, la fabrication des cassettes et des CD sont des facteurs générateurs de carbone. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples. Mais il suffit d'être attentif et de voir ce qu'on peut faire par le numérique pour venir en soutien à la transition écologique.
Et quand on parle de transition écologique, on nous fait savoir qu'on part du fossile pour aller vers les énergies renouvelables ou énergies vertes.
Y a-t-il d'autres exemples qui nous permettent de délaisser le fossile pour aller vers les énergies vertes?
Il n'y a pas normalement à délaisser les énergies fossiles. Ce que demande l'ONU, ce n'est pas de délaisser les énergies fossiles. L'ONU prône la mixité énergétique. C'est-à-dire, l'ONU demande à chaque pays d'avoir d'ici 2030 une proportion de sa part énergétique qui soit du renouvelable. L'ONU ne dit pas de faire du 100% renouvelable. Ceux qui peuvent faire du 100% renouvelable, c'est bon pour eux. Mais ce serait quoi du 100% renouvelable? Ce serait par exemple du soleil où la nuit on n'a plus rien, où on a des batteries, où ce serait de l'hydroélectricité, où en saison sèche il n'y a plus d'eau dans les barrages, on ne sait pas quoi faire. Donc les fossiles ont leur place. Ce qui est demandé de faire, c'est d'avoir un comportement éco-responsable. Ça veut dire, en utilisant les fossiles, faire de telle sorte que les gaz qui sont émis soient des gaz traités, que les pots d'échappement des voitures aient des pots catalyseurs qui traitent les gaz, et que les voitures elles-mêmes soient entretenues. Parce que vous avez deux voitures qui peuvent entrer dans une station d'essence, elles vont prendre le même carburant, et puis une va commencer à fumer à la sortie. Quelle est la différence? C'est celle qui n'est pas entretenue. Donc le carburant peut être bon, mais si vous n'entretenez pas vos voitures, vous contribuez à l'effet de serre. Donc ça, ce n'est pas lié au fossile, c'est lié à l'entretien du véhicule.
Vous venez tout à l'heure de nous donner des exemples qui traduisent l'apport du numérique au niveau de la transition écologique. Alors selon vous, quels sont les impacts du numérique sur l'environnement? Existe-t-il des impacts?
Oui, il existe des impacts négatifs. Hein. C'est par exemple le fait qu'après avoir utilisé un ordinateur, on ne sait pas le recycler. Donc c'est ce qu'on appelle l'empreinte numérique. Donc le numérique, autant il aide l'écologie, autant il peut être néfaste si on ne sait pas s'en servir. Par exemple, lorsque vous avez un téléphone portable, on n'est pas obligé forcément de le remplacer chaque année. Si vous avez un ordinateur qui ne marche plus, on peut le réparer. Mais quand vous jetez votre ordinateur parce que vous avez eu un autre, vous créez ce qu'on appelle une empreinte numérique. Et l'empreinte numérique aussi agit sur l'écologie.
Monsieur Serge Parfait Diouman, quels sont les principaux enjeux de la transition écologique et numérique en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire?
Aujourd'hui, il s'agit de briser des barrières, pas sociales, mais des barrières sociétales. C'est-à-dire qu'avec le numérique, les populations sont capables de communiquer entre elles. On est dans un monde de réseau social, comme on dit. Voici un enjeu qui est important. Lorsque vous avez, par exemple, une communication à faire, rien que à partir des canaux digitaux, vous pouvez joindre rapidement une grande masse de population. Et quand on sait l'importance de la communication en Afrique, voici un apport, un enjeu important qui découle de la pratique du numérique. Deuxième chose aussi, c'est par exemple dans le domaine scolaire. Il y en a beaucoup d'exemples là. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne peuvent pas forcément aller en classe parce qu'ils n'ont pas les moyens ou ils ont faim, ils n'ont pas les ressources qu'il faut. Mais grâce au numérique, aujourd'hui, il y a la possibilité que ces enfants suivent des cours en ligne. Il y a aussi, par exemple, un troisième exemple pour terminer, la monétique aujourd'hui. Tout le monde n'a pas de compte bancaire en Afrique. Mais l'Afrique a développé quelque chose qui n'existe pas toujours ailleurs, forcément ailleurs, qui est le mobile money. Donc, il permet aux gens de pouvoir échanger de l'argent entre eux.
On continue notre entretien. Tout à l'heure, là, en vous écoutant, je pensais à la COVID-19. Lors de la COVID-19, le télétravail était imposé par la maladie. Est-ce un exemple de l'apport du numérique?
Oui, le télétravail, non seulement c'était un exemple d'application du numérique, mais le télétravail est venu prouver qu'on peut travailler mieux, pas forcément mieux tout le temps, mais on peut travailler mieux à des occasions lorsqu'on est en distanciel. Et l'avantage de COVID-19 est venu prouver que certains gaz, certains comportements, la surconsommation, la surproduction qui étaient mis en cause comme facteur impactant de l'écologique étaient réels. Puisque pendant la COVID, personne ne sortait, il n'y avait pas de déplacement, il n'y avait plus de consommation à outrance, il n'y avait plus de production, on a vu la nature se régénérer. Donc la COVID est venue comme une expérience pour prouver ce qu'on disait, que c'est le comportement agressif de l'homme sur la nature qui est à la base du réchauffement climatique. Donc, rester à la maison et travailler en distanciel, ce sont des exemples, comme j'ai parlé des visio tout à l'heure. Je veux dire, c'est comme rester dans son bureau et faire une conférence avec quelqu'un qui est ailleurs.
Serge Parfait Dioman, selon vous, quels sont les défis sociaux et économiques liés à la transition écologique et numérique?
Bon, d'abord, les défis, c'est les défis, en fait, de qualité de service. Parce que lorsqu'on parle de numérique, on parle quand même aussi du web. Donc, lorsque le réseau en Afrique, dans certains pays, n'est pas forcément ce à quoi il faut pouvoir réaliser une communication web de bonne qualité, ça devient un frein. Il y a aussi le fait que les communications peuvent être coûteuses, donc pas forcément accessibles aux populations. C'est ce genre de défi qu'il y a. Et il y a des populations qui sont situées dans des zones qui ne sont pas forcément couvertes par des antennes d'opérateurs d'Internet. Donc voici un peu les défis qu'il y a. Et l'un des grands défis communs à toute l'Afrique, c'est la couverture électrique. Si on parle de numérique, il faut quand même l'électricité. Mais si l'Afrique a 600 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'énergie, c'est la moitié de la population qui n'a pas accès au numérique.
Oui, mais cette moitié de la population a accès à l'énergie solaire, au solaire, sans forcément passer par l'énergie électrique.
L'énergie solaire est aussi l'énergie électrique parce que ça permet de générer l'électricité. Mais c'est une énergie qui est intermittente. C'est-à-dire le soir, quand il n'y a pas d'électricité, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le soleil n'est pas permanent. C'est une bonne solution. C'est pour cela qu'il faut, en plus du soleil, il faut une énergie pérenne qui soutient tout le temps la production.
Alors, comment assurer dans ces conditions une transition énergétique vers des sources renouvelables tout en intégrant les innovations numériques dans les réseaux électriques?
La consigne est donnée par l'ONU. Chaque pays a une consigne. Par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir 45% de renouvelables d'ici 2030. Donc, chaque pays a une consigne. À partir de cela, chacun développe son plan d'énergie renouvelable. Donc la Côte d'Ivoire a commencé avec les barrages hydroélectriques, la Côte d'Ivoire a enchaîné avec la biomasse, la Côte d'Ivoire a enchaîné avec le solaire, et récemment la Côte d'Ivoire a enchaîné avec l'éolien. Donc la seule énergie renouvelable que la Côte d'Ivoire n'a pas encore fait, c'est la géothermie. Sinon, sur les 5 énergies renouvelables, la Côte d'Ivoire est présente dans les 4. C'est-à-dire l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien et la biomasse.
Alors comment définissez-vous ces 4 énergies?
Ce sont des énergies renouvelables. Et la Côte d'Ivoire, sur 5, la Côte d'Ivoire fait 4.
Oui, par exemple, pour l'Ivoirien lambda qui ne sait pas ce que c'est que l'énergie solaire, comment définissez-vous l'énergie solaire?
L'énergie solaire, ce n'est pas que le soleil lui-même donne de l'électricité. Le soleil va donner des rayons, et ce sont ces rayons-là qui sont captés par des panneaux solaires pour créer l'électricité. L'énergie éolienne, c'est une grande hélice qui est montée sur un poteau, et lorsque le vent souffle, cette hélice est entraînée par le vent et ça fait tourner une turbine qui produit l'électricité. L'hydroélectrique, c'est à la différence de l'éolien où c'est le vent qui fait tourner la turbine, c'est l'eau qui circule dans les barrages, dans les cours d'eau qui fait tourner la turbine. La biomasse, c'est le fait de récupérer toutes les matières qu'on n'utilise plus, comme par exemple le palmier à huile, les branches et tout ça, les brûler pour produire de l'énergie. La cinquième qu'on ne fait pas, c'est la géothermie. C'est utiliser la chaleur qui est dans le fond de la terre pour produire de l'électricité. Ça, on ne le fait pas.
On ne le fait pas. Est-ce parce qu'on n'a pas la technologie nécessaire pour le faire ou bien est-ce parce que pour l'instant, ce n'est pas d'actualité?
Dans le business plan des énergies renouvelables, chacun a un quota. Si déjà avec ce qu'on a, on peut atteindre les 45%, après, tout redevient à penser en coût d'exploitation. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une énergie qui nous revient coûteuse au kilowattheure.
Alors selon vous, comment les technologies numériques couplées à la transition écologique peuvent-elles contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique puisque c'est ce que l'on vit maintenant au quotidien?
Oui, c'est d'abord par la dématérialisation de certaines habitudes professionnelles ou familiales. Par exemple, le fait d'écouter de la musique en ligne aujourd'hui plutôt que des CD, le fait de lire des journaux en ligne plutôt qu'autre chose, le fait d'écouter des concerts en ligne plutôt que se déplacer, pour l'artiste, il reçoit toujours son argent. Mais c'est des habitudes nouvelles que les gens doivent commencer à avoir. Le fait de travailler en télédistance, pour par exemple des femmes qui sont en congé de maternité, voici des cas qui sont possibles.
Il existe des données, des technologies numériques. Comment peuvent-elles être utilisées pour surveiller et gérer les ressources naturelles de manière plus efficace et durable.
Bon, là, nous avons les drones. Hein. Les drones sont pilotés par des technologies électroniques et numériques. Donc, ça, c'est des possibilités. Il y a aussi des caméras spécifiques qui sont placées dans certains endroits qui captent l'air et qui peuvent savoir s'il y a des émanations de gaz. À partir de là, des alertes sont dans nos populations pour se protéger.
Qu'en est-il des ressources en eau?
Les ressources en eau, également, aussi, il y a des quotas en ce qui concerne les rejets dans les eaux. Donc, des prélèvements sont faits, ils sont envoyés en laboratoire, ils sont contrôlés. Ici, en Côte d'Ivoire, le laboratoire qui s'en occupe, c'est le LANEMA, Laboratoire National d'Études Météorologiques et LANEMA. Donc, ce sont des contrôles qui sont faits de façon régulière et quand il y a des alertes, les populations sont informées.
Quel rôle les gouvernements, les entreprises et la société civile devraient jouer dans la promotion d'une transition écologique et numérique juste et équitable?
Bon, déjà, la première des choses, c'est que les gouvernants laissent tout le monde déjà s'informer sur la question et forment les gens. C'est déjà la première des choses et c'est assez important que les gens s'informent par des conférences et tout ça. Maintenant, à partir de là, il s'agit maintenant aux citoyens eux-mêmes d'avoir des comportements éco-responsables et puis aux clubs services de venir en appui aux institutions pour pouvoir réaliser des œuvres dans ce sens.
Comment les clubs services comptent-ils s'y prendre concrètement sur le terrain?
C'est d'abord en sensibilisant la population et en mobilisant aussi des fonds, parce que ça demande de l'argent. Donc les clubs services sont beaucoup plus outillés pour pouvoir aller sur le terrain en venant en appui aux actions gouvernementales dans les différents pays d'Afrique.
Serge Parfait-Diomand, vous êtes un expert en matière d'énergie. Et comment peut-on promouvoir l'innovation écologique et numérique, surtout dans les industries pétrolières et énergétiques, tout en garantissant les objectifs de développement durable prônés par les Nations Unies?
C'est tout à fait possible. En Côte d'Ivoire, par exemple, le développement du champ baleine, pétrolier baleine, s'est fait en net zéro émission de gaz à effet de serre. Donc, il n'y a pas de gaz émis.
C'est nouveau en Côte d'Ivoire?
C'est même nouveau en Afrique. Et ça, c'est la volonté, c'est au compte du chef de l'État, président Alassane Ouattara, qui a demandé que ces champs soient des champs verts. Ça a été une consigne. Tout récemment, le Niger vient de démarrer un puits pétrolier qui est alimenté en énergie solaire. Donc, c'est tout à fait possible. L'énergie renouvelable n'est pas forcément opposée à l'industrie pétrolière.
En conclusion, en résumé au total, qu'est-ce qu'on peut retenir des enjeux et des perspectives de la transition écologique?
L'on peut retenir qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur le carbone parce qu'il y a d'autres matières qui sont beaucoup plus virulentes que le carbone et qui agissent aussi de façon plus virulente. Donc la lutte contre le réchauffement climatique doit prendre en compte toutes les matières qui ont une incidence à partir de leur potentiel de réchauffement global. On sait quelles sont les matières qui sont plus virulentes. Par exemple, du fréon, c'est 10 000 fois plus virulent que le carbone. Ah, mais on n'en parle pas.
On en parlera prochainement. Monsieur Serge Parfait-Diomand, je vous remercie.
Ok, c'est moi qui vous remercie.
À la technique, il y a Antoine Kouassi, Marthe Kakou à ce micro. Merci de votre attention et à bientôt.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.